Et nous allons tout de suite entrer dans la deuxième phase de cette conférence de presse avec les questions et réponses. Vous connaissez la règle, veuillez éteindre vos portables ou mettez-les sous silencieux. Nous commençons par Goma. Goma, deux questions, une femme de préférence pour ouvrir les débats. À vous, Goma.
Merci, Félix. La femme, alors, à ma droite, madame, allez-y, présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît.
Je suis Sylvie Mazandi.
Restez assis, s'il vous plaît.
Je représente l'Union congolaise des femmes de médias. Je voulais poser une question aux représentants de la Médicom, Martin Flaubert. Nous avons appris par des sources sûres que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya veulent envoyer leur contingent dans le FBI, FIB. Ils veulent aussi être impliqués dans la traque de FDLR et ADF Nalu. J'aimerais bien que Martin de Kobler puisse infirmer ou confirmer cette information.
Oui, Monsieur Kobler, c'est à vous.
C'est une Kenya,
L'Ouganda, le Rwanda et le Kenya qui voudraient prendre part à la brigade d'intervention. Est-ce que vous pouvez confirmer ces informations?
Voilà, cette instance, je ne peux pas confirmer ça. Je sais que nous avons des discussions sur la transformation de la force dans le cadre du dialogue stratégique avec le gouvernement. La question est toujours, est-ce que la brigade d'intervention est efficace comme elle est maintenant? Est-ce que les autres troupes de la MONUSCO sont efficaces dans l'état maintenant? Et ça change d'un temps à l'autre. Alors, on a des troupes qui sont efficaces contre les M23, qui est une guerre traditionnelle, mais est-ce que les troupes sont efficaces aussi alors combattre la contrebande de l'or? Et c'est pourquoi il faut aussi, dans le cadre de la stratégie du départ de la MONUSCO, discuter, est-ce qu'on peut agir avec peut-être moins de troupes, mais dans une manière plus efficace. Et la structure de la brigade d'intervention, c'est aussi une chose qu'on discute avec le gouvernement, mais ce n'est pas si concret que vous avez dit.
Merci beaucoup. Donc, une deuxième question à Goma.
À l'aile gauche de la salle.
Oui, c'est Victor Bigat pour le compte du journal Hebdo de l'Est. Je pose tout droit ma question à Martin Kobler. Il n'y a pas... le ZADEF était longtemps en Ouganda et que l'armée ougandaise n'a pas été en mesure de maîtriser ces groupes armés. Et qu'aujourd'hui, l'Ouganda sollicite à ce qu'il puisse faire les opérations conjointes contre le ZADEF. Pensez-vous que aujourd'hui, l'Ouganda sera en mesure de maîtriser les ZADEF alors qu'il n'était pas en mesure de les maîtriser quand ils étaient en Ouganda?
Voilà, j'ai bien lu la déclaration du président Museveni. Je dois dire, je partage les préoccupations de l'Ouganda sur le reste, ce qu'on doit faire contre les ADF. Les ADF étaient réduits dans sa force dans des combats, en particulier des FRDC soutenus par la MONUSCO. On avait beaucoup des soldats des FRDC qui sont morts dans ces combats, aussi deux Tanzaniens l'autre jour ont été tués dans les combats contre les ADF, mais on a fait beaucoup. C'est pas tellement juste de dire on n'a rien fait. On a beaucoup fait dans le passé, mais il reste beaucoup à faire. L'ADF, c'est une organisation qui opère avec des moyens terroristes. C'est toujours très difficile de combattre des terroristes. Si vous voyez aussi des pays occidentaux où on a du terrorisme, alors aussi au milieu de la ville de Paris, on a du terrorisme. C'est pourquoi c'est très très difficile de les attaquer. Mais je partage la préoccupation du président Museveni qu'on ne doit plus faire. En ce qui concerne les opérations conjointes avec les forces ougandaises, alors c'est un pays souverain ici. Ils doivent demander au gouvernement ici. Ce n'est pas à nous, la MONUSCO, de décider. Le gouvernement va décider comment gérer ce problème. Pour l'instant, alors c'est les FRDC, soutenus par la MONUSCO, qui combattent les ADF. Si on a un changement de la politique de la RDC, on va le voir. Je dois ajouter que Alors l'ADF, c'est un problème, mais comme j'ai dit, la contrebande de l'or de ces territoires en Ouganda, c'est un autre problème. Il faut aussi une coopération avec les autorités ougandaises de mieux combattre la contrebande. Nos experts disent le suivant. On a 800 millions de dollars de contrebande illicite, la plupart l'or, à travers les frontières, en particulier l'Ouganda. 800 millions de dollars, c'est ce que les experts disent. 2% sont gérés par les groupes armés, les autres par les 98% par voilà, un réseau criminel. Ce réseau criminel est par nature transfrontalier. Et j'encourage alors aussi les autorités de l'Ouganda alors de coopérer et de vraiment combattre la contrebande illicite dans le pays. Nous sommes prêts ici de le faire. C'est aussi transformation aussi de notre force. Il faut avoir plus de policiers qui s'occupent de contrebande. Alors de combattre les groupes armés, comme je dis, c'est une chose. Et aussi, alors, les ADF, c'est un problème. Mais la contrebande, ils vivent de l'or, ils vivent de l'argent qui est de l'argent qui de contrebande de l'or. C'est pourquoi c'est très important aussi ici de coopérer avec les autorités ougandaises de combattre la contrebande illicite transfrontalière.
Merci. Nous revenons tout de suite ici à Kinshasa où je sens une forme d'impatience. Nous commençons par la gauche, une dame de préférence. Par la gauche, il n'y a personne. Donc, oui, donnez le micro là-bas. Oui, donnez le micro. Donnez à une dame, c'est de préférence. Donnez.
Merci pour la parole, c'est Saint-Germain et Bengo. Pour le compte de Géopolice, une question à Martin Kobler. Vous avez dans votre allocution énormément parlé de la contrebande minière comme étant l'une des causes profondes sous-jacentes à la guerre de l'Est. Or, dans le 15e paragraphe de la résolution 21-11, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies paraît en filigrane avec le ministre congolais en charge des mines. La question est de savoir, existe-t-il un degré de collaboration entre Martin Kobler et Martin Kabolulu? J'ai parlé.
Voilà, oui. Je le connais très bien, on est en contact avec le ministre, c'est un vrai problème d'avoir le contrôle de la mine. Comme vous savez, nous avons beaucoup de projets de traçabilité qu'on discute avec le ministre des mines ici. On a maintenant 170 mines qui sont contrôlées à l'Est par la communauté internationale, où les produits des mines sont validés, c'est un processus d'étiquetage jusqu'au consommateur. Alors, je crois que c'est un projet très bien, mais, alors vous savez la dimension du problème, vous avez 2000 mines à l'est du pays et on a validé 170. C'est un bon début, mais alors on reste beaucoup à faire. Et c'est le contenu des discussions avec le ministre des Mines de progresser ici. On a des projets de traçabilité, de validation de mines, ça doit être plus. Et il faut voir aussi avec le ministre où sont les alternatives pour la population. Nous savons qu'on a à peu près 300 000 creuseurs. Dans les 2000 mines, 300 000, c'est beaucoup de gens, avec toutes les familles. Ce sont avec tout le monde, ce sont presque 2 millions de gens qui participent d'une manière ou d'autre dans les mines. On a des problèmes économiques, des problèmes d'alternatives pour ceux qui perdent leur travail par là, parce que c'est un problème social à l'Est. Alors, on a beaucoup de problèmes, validation des mines, mais combiné avec la lutte contre la contrebande, une police minière robuste pour empêcher la contrebande, alors ce sont les sujets qu'on discute avec les officiers.
Merci, nous restons ici à Kinshasa pour une deuxième question. Oui, donnez le micro s'il vous plaît. Oui, madame.
Pour le compte de King 24 Télévision. Monsieur Kobler, il y a les HCR qui s'inquiètent de l'arrêt brusque de l'opération d'enregistrement biométrique. Qu'est-ce qui se passe? Que justifie cet arrêt?
Voilà, on a le processus de registrement biométrique qui est un processus très très bien. C'est sur le compte à l'est des majoritaires Hutus, mais aussi, pas seulement à l'est, on a aussi les réfugiés au Katanga, dans d'autres pays. C'est pas bloqué partout, c'est bloqué dans les territoires qui sont contrôlés par les FDLR. Exclusivement. Et on a dû arrêter, à cause des questions sécuritaires, l'enregistrement biométrique de HCR, mais ça continue avec les autres réfugiés, mais pas avec les réfugiés qui sont dans les territoires contrôlés par les FDLR. C'est pourquoi je dis toujours, il faut vraiment encourager le gouvernement de reprendre la coopération avec la MONUSCO par rapport au combat contre les FDLR.
Oui, je pense que dans la salle, nous avons un représentant du HCR qui voudrait bien peut-être rajouter des éléments d'information à ce que M. Kobler a dit.
Non, on n'a pas.
Bon. Donc, nous le reverrons à la fin. Donc, tout de suite, direction Goma pour prendre deux autres questions. Goma, la parole est à vous.
Oui, merci. Plus loin, au fond de dans la salle, oui.
Oui, je m'appelle Cosmas Mongazi Kakola, journaliste scientifique. Ma question, c'est une question militaire qui s'adresse aux autorités militaires de la MONUSCO. Lorsque vous avez donné l'état des lieux de la sécurité à l'Est, vous n'avez pas parlé du territoire de Walikale. Et pourtant, je revenais d'une réunion des ressortissants de Walikale qui dénombre plus de 5 seigneurs de guerre dans ce territoire. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un plan de la MONUSCO pour traquer ces seigneurs de guerre, s'il y en a? Ça va commencer à quand vous allez commencer à les traquer effectivement?
Général Cruz, la parole est à vous. Oui, bon général.
Ok, merci beaucoup pour la question. Vous savez très bien que nous avons beaucoup de groupes armés ici. La FDLR, il y a Tchèque, il y a Guidon, il y a d'autres groupes armés, Raimo Tomboki, Maimai, Charles e d'autres groupes armés. Alors, ce n'est pas possible d'adresser tous les groupes armés tous les mêmes temps. Et la attention de la FRDC et le soutien de MONUSCO à l'est de la région du Nord Kivu, il y a l'opportunité pour les groupes armés, les criminels comme Tchèque et Guidon et d'autres criminels là-bas de faire l'exaction à Walikale. C'est très important l'attention à Walikale aussi, mais ce n'est pas possible d'adresser tous les points dans le même temps. Mais c'est très important, c'est une chose que nous sommes concernés. Et nous allons soutenir la FRDC avec tous les moyens nécessaires pour aller contre les criminels à Walikale.
Merci, mon général. Peut-être juste pour rajouter à la suite du général qu'effectivement, dans le groupement de Ihana, les combats qui opposent le Maïmaï Tcheka et le Maïmaï Guédéon posent beaucoup de problèmes parce qu'ils provoquent des déplacements de populations civiles. Mais comme l'a dit le général, la MONUSCO est prête à venir en appui au FRDC pour contrer justement cette menace sécuritaire posée par les éléments aussi bien de Tcheka que de Guidon. Une deuxième question à Goma, nous y restons toujours.
Goma. Merci, ma question de Radio Kapi.
Oui. Merci. C'est Christian Mapendano pour le compte de Radio Kapi. La question est adressée au général Cruz. Hier, la section protection de l'enfant a dit que les FRDC sont sortis meilleurs élèves dans le respect du slogan « Zéro enfant enregistré au courant du premier semestre 2015 ». Alors, qu'en est-il des groupes armés? Est-ce que dans les groupes armés, on peut avoir une idée sur comment ils se comportent actuellement quant au recrutement des enfants?
Il y a la protection des enfants dans la mission. Je ne suis pas le spécialiste dans la question, mais sur la FRDC, il y a la vérification. Il y a la collaboration de FRDC dans la vérification Et dans le rapport sur la question, ce n'est pas une chose que se peut vérifier qu'il n'y a pas des enfants dans la FRDC. Il y a la vérification et le rapport, il n'y a pas l'indication. Mais les groupes armés, il y a beaucoup. Dans les groupes armés, il y a beaucoup d'enfants. Tout le temps, tous les mois, il y a 30, 40, 50 enfants qui les services de protection des enfants et les autorités ont récupéré pour les enfants des groupes armés. Et il y a l'utilisation pour les groupes armés. Et ce n'est pas possible de dire qu'il y a l'utilisation pour les FRDC. Ce n'est pas.
Merci, mon général. Juste à votre suite pour dire que les forces armées de la République démocratique ont accompli des efforts significatifs justement dans la lutte contre l'enrôlement des enfants dans le rang. Ils ont toujours ouvert les portes à la section protection de l'enfant et le dernier rapport qui avait été fait la dernière fois parlait d'un seul enfant retrouvé suite à une inspection ou à une activité menée par la section protection de l'enfant. Donc nous pouvons dire qu'au sein des FRDC, les progrès sont constants, ils sont encourageants, ils sont positifs. Toutefois, je viens de vous dire qu'il y a, rien que pour l'année 2015, la section protection de l'enfant a documenté environ 1070 enfants qui sont enrôlés dans les différents groupes armés. Et je viens aussi de vous dire, de vous indiquer clairement qu'environ 73 enfants ont été ou tués ou mutilés justement du fait de la violence perpétrée ou exercée par les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc merci et retour tout de suite ici à Kinshasa pour prendre une question sur la droite. Oui, donnez le micro s'il vous plaît. Oui.
Merci, Michael Bakemba, pour le compte de la RTVS1. Ma question est adressée à M. Martin Kobler. Dans vos trois sujets évoqués tout à l'heure, résumant votre rapport sur la situation et en République démocratique du Congo, dans le deuxième sujet, vous avez parlé de l'élection, notamment consultation nationale qui devait amener au dialogue. À quoi servira un dialogue auquel n'aura pas pris part l'opposition politique, je parle de la vraie opposition, celle qui avait boycotté en 2013 les concertations nationales. Le message du 29 juin du chef de l'État, Joseph Kabila, a eu pour passage fort les non à l'ingérence étrangère dans la conduite du dialogue. Et vous, les amis de la RDC, vous êtes invités à jouer un rôle positif. Quel rôle avez-vous déjà joué jusque-là pour convaincre l'opposition qui hésite encore à prendre part à ces dialogues? Quel rôle vous avez déjà joué jusqu'à présent?
Merci. Voilà, merci bien pour la question. Alors une chose, les Nations Unies et nous n'interférons jamais dans les affaires domestiques d'un pays. Nous sommes toujours basés sur la résolution. En ce qui concerne les élections, nous avons le mandat de bons offices. Mais on ne peut pas forcer les partenaires en bons offices. Hein? Alors aussi pour danser, alors vous devez avoir un partenaire. Vous ne pouvez pas danser avec vous-même. C'est pourquoi il faut avoir vraiment le consentement de tous les partis d'être engagés dans les bons offices. Et ici, nous ont été impliqués de parler aussi avec l'opposition, parler aussi avec la majorité présidentielle, avec tous les interlocuteurs ici, avec le gouvernement, avec dans le gouvernement les parlementaires, aussi les parlementaires, le groupe des G7, aussi les dirigeants, aussi l'opposition, avec tout le monde pour avoir une résolution des problèmes. Parce que ce sont les problèmes qui doivent être résolus. De garder le calendrier électoral menant aux élections présidentielles législatives au mois de novembre 2016. Pas plus tard, au mois de novembre 2016. Et j'ai aussi fait clair au Conseil de sécurité que ces consultations nationales ne doivent pas empêcher alors ce calendrier électoral soit d'être gardé. Le plan de financement. c'est un grand problème. Alors, les élections doivent être financées. C'est un pays assez compliqué ici pour logistiquement pour organiser les élections. Vous le savez beaucoup mieux que nous. Il faut le financer. Il faut avoir le soutien aussi de la communauté internationale pour le financement, mais pas seulement le plan de financement, mais le décaissement. Il faut avoir vraiment du cash money, alors le décaissement de l'argent qui est planifié. Et les autres problèmes, comme les nouveaux majeurs ici, alors les 5 millions jeunes gens qui ne sont pas sur les listes électorales, aussi ça doit être réglé. Et c'est ce que nous discutons, calendrier électoral, engagement de la communauté internationale par rapport au financement, les autres problèmes administratifs, aussi techniques, où on soutient la CENI techniquement avec 13 collègues qui travaillent là-dedans, dans la CENI. Alors on a beaucoup des sujets qu'on règle. Laissez-moi ajouter une chose, c'est la sécurité électorale. Alors on a vu au mois de janvier qu'on avait des morts dans les rues de Kinshasa. Il faut l'éviter. C'est la formation de la police, c'est la coopération de notre police avec la PNC en ce qui concerne le règlement des manifestations. Alors, on a beaucoup d'activités et il faut savoir que nous voulons vous assister le gouvernement dans cette période maintenant 2015-2016 qui est très très difficile pour organiser, mais aussi politiquement, d'assister le gouvernement, d'avoir des élections transparentes, crédibles et avant tout paisibles.
Merci, Monsieur Kobler. Nous sommes dans l'obligation de rendre l'antenne à Radio Okapi, mais nous poursuivons cette conférence de presse avec deux autres questions ici à Kinshasa et deux autres questions à Goma. Donc, Kinshasa, pour une deuxième question, s'il vous plaît, ici. Oui, une dame là-bas.
Sylvie Fortuné, d'Antenne A. Monsieur Kobler, ma question est celle de savoir, qu'en est-il exactement de la normalisation du rapport entre la MONUSCO et le gouvernement en ce qui concerne les opérations militaires à l'Est, telles que les opérations contre le FDLR? Vous avez vous-même parlé de la frustration au Conseil de sécurité des Nations Unies à ces sujets. Nous avons l'impression que le gouvernement vous a totalement tourné le dos. Qu'en est-il exactement? Merci.
Voilà, merci bien pour la question. Je crois, comme j'ai dit, la coopération entre les forces, le commandant de la force pourrait commenter sur ça, entre les FRDC et la force est excellente. C'est vraiment excellent en ce qui concerne les opérations contre les FRPI, les ADF, on soutient la MONUSCO. Les militaires se comprennent très bien, ils ont une bonne compréhension qu'est-ce qu'on doit faire. La seule chose qui est bloquée, c'est au nord Kivu, au sud Kivu, ce sont les opérations contre les FDLR. Et aussi moi, j'ai une relation très très étroite et très bonne avec le gouvernement. Nous avons, comme j'ai dit, le dialogue stratégique. On est ensemble tout le temps et je fais le point qu'il faut séparer la question des opérations, qu'il faut reprendre les opérations le plus vite possible contre les FDLR. Et il faut avoir une décision du gouvernement d'autoriser les FRDC de coopérer avec nous. Dans la période de du désarmement volontaire, deuxième moitié 2014, les planifications des opérations contre les FDLR ont été très très bien. Et ils sont toujours en place. Il faut les mettre en œuvre.
Merci. Donc, nous prenons une dernière question ici à Kinshasa. Oui, nous restons sur la gauche par conséquent. Oui, donnez un micro là-bas.
Si c'est Théodore Gandopoul, le compte de la radio Télé 7. Monsieur Martin Kobler, au cas où on constaterait toujours la position ferme du gouvernement quant à la coopération MONUSCO et FARDC dans l'attaque des FDLR, que fera la MONUSCO en ce moment-là?
Voilà, alors Nous avons le fait que nous n'avons pas des opérations conjointes n'exclut pas que nous remplissons notre mandat de protection civile. Nous avons au Nord Kivu la brigade du Nord Kivu. Ils font des patrouilles, ils font des centaines de patrouilles dans les territoires qui sont dominés par les FDLR. Mais comme vous avez écouté, alors on a des violations de droits de l'homme. C'est pas un État qui est satisfaisant. Ça continue. On a les exactions des FDLR. On a des taxes illégales. On a alors des enfants qui sont décapités parce qu'ils veulent s'enfuir. Alors non, ça ne marche pas. Alors, la raison d'être de la MONUSCO, c'est au final de partir du pays. Nous voulons partir du pays, mais nous pouvons partir seulement du pays si la situation n'est pas fragile comme maintenant. On ne veut pas laisser un pays fragile et non stabilisé avec les FDLR qui terrorisent la population. On ne peut pas quitter comme ça. C'est pourquoi, si on coopère vite, le plus vite possible et le plus fort possible, le plus efficace possible, on peut partir plus vite. Alors c'est bien simple. On est en contact avec le gouvernement sur ces questions. Les militaires, ils ont une très très bonne coopération entre eux. C'est la politique qui doit décider des choses qui doivent être décidées.
Merci Monsieur Kobler. Donc nous allons tout de suite à Goma pour prendre deux dernières questions à partir de Goma. Goma.
Merci, à droite. Allez-y,
merci. Merci beaucoup, c'est Inga Paterne de AP. Ma question s'adresse à M. Kobler Martin. Vous venez de dire que la MONUSCO ne peut pas quitter le pays et laisser le pays fragile. Très bien. Mais les îlots de stabilité sont menacés aujourd'hui par des groupes armés. Où sommes-nous et où sont placés les drones que vous aviez présentés dernièrement ici? Merci beaucoup.
Voilà, merci pour cette question. Vous avez mentionné un point très très important que j'ai aussi mentionné auparavant. C'est la restitution de l'autorité de l'État. Si on a des territoires qui sont libérés, il y a un vide. Il y a un vide parce qu'on n'a pas l'autorité de l'État par là. On n'a pas assez des policiers, pas assez des FRDC qui sont là. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a rien. Mais, et vous le savez très bien à Goma, les îlots de stabilité maintenant, ils sont quelque chose de premier secours. Parce que la MONUSCO, avec quelques moyens, avec du personnel, avec quelques petits projets, pas grands projets, petits projets sont là, pour remplir ce vide qui est laissé par les groupes armés après le combat. Ils doivent être intégrés. On a un processus de DDR, mais il faut avoir aussi police, l'administration civile, pour garantir les services de base. Et si les îlots de stabilité sont là, il faut les garder, il faut les éteindre. Et puis, c'est l'État qui doit être là. La police et l'administration civile. Il faut puis développer l'économie. C'est très important. C'est très important l'économie. Nous parlons toujours des groupes armés. C'est très important. Mais il faut avoir une perspective pour la population. Si vous voyez maintenant la situation à Goma et à l'est du pays, il y a deux ans, vous le savez très bien, à Goma, il y a deux ans, où le commandant de la force et moi, nous sommes des jumeaux ici, nous sommes arrivés au mois de juillet, ou ici dans le pays, il y a deux ans, on n'avait pas les activités d'agriculture à l'est. Maintenant, vous avez une situation où les axes sont libérés. Les FRDC, soutenus par la MONUSCO, ils sauvegardent la liberté de la mobilité des gens. Et vous avez une économie à Goma maintenant qui est beaucoup plus mieux qu'il y a deux ans. Et c'est ce qu'il faut faire si vous considérez Goma comme îlot de stabilité. Voilà, c'est très bien. On a un gouverneur, on a des activités économiques. C'est ce qu'il faut faire à Butembo, à Lubero, à Rutshuru, à Walikale. C'est l'objectif des îlots de stabilité.
Merci. Donc, nous prenons une dernière question à Goma.
Là, juste là.
Allez-y. Jérémy, ma question s'adresse au chef de bureau Goma. Quelle est la situation actuelle dans les ressources où les habitants ont vidé la localité de Boalanda après qu'on ait incendié le camp des réfugiés? La situation actuelle.
Oui, bon, effectivement, il y a le camp de déplacés qui a été brûlé il y a quelques jours. Et la première réaction, ça a été déployer la force de la MONUSCO sur place. Les trois communautés de la zone se sont réfugiées chacun dans la ville où ils sont majorité. On a fait une mission de reconnaissance pour établir les faits qui sont arrivés là-bas, une mission civile de droits de l'homme qui nous a amené certains faits, et je peux vous annoncer que demain le gouverneur et moi-même irons sur place pour parler avec les différentes communautés et pour maintenir cet effort pour trouver une solution. On sait qu'il y a des tireurs de ficelles derrière ces affrontements. Je ne crois pas qu'il y ait aucune communauté qui ne puisse pas convivre avec une autre. Et vous savez mon opinion de quelles sont les motivations derrière ces tireurs de ficelles. Ils gagnent de l'argent avec. Hein. On a des informations, par exemple, que le terrain où... non confirmé, hein, que le terrain où ces déplacés étaient aurait été acheté par une personne privée. Hein. On n'est pas sûr de ça, mais on va confirmer tous ces faits. Merci.
Merci beaucoup à M. Daniel Ruiz. C'est sur cette note d'espoir de réconciliation future entre les différentes communautés que nous mettons un terme à cette conférence de presse. Merci aux auditeurs de Radio Okapi. Merci à ceux qui ont bien voulu faire le déplacement ici. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Ouais.